Alors, je voudrais lire avec vous deux textes dans la deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, au verset 11 à 18. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété ou votre culte personnel rendu à Dieu tous les jours, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu ou l'avènement du Seigneur dans d'autres textes, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et je passe au verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce ou la faveur divine et dans la connaissance ou la communion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Matthieu 24 au verset 3. Nous lisons au verset 3, « Il s'assit, Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Et au verset 37, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Un autre signe. Je voudrais bien savoir et discerner les signes des temps. Alors, il y aura des signes dans les cieux, nous disait Matthieu 25, mais il y a aussi des signes dans la vie des hommes, sur la terre. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Vous avez en tête toutes les publicités qui ont précédé la fête de Noël. Tout portait sur l'alimentation et la boisson. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit peu sur les jouets et les cadeaux. Mais tout portait depuis un mois sur ce qu'il allait être mangé et bu au réveillon de Noël. C'est symptomatique. D'après Jésus, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes ne pensaient qu'à manger et à boire. Se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors voilà, un des signes, qu'est-ce que c'est ? C'est pourtant, nous le savons, des choses tout à fait naturelles. Mais quand elles deviennent l'unique objet des pensées des hommes, un matérialisme agressif et forcené, quand le manger et le boire et se marier ou construire une vie ne devient plus que l'objectif unique des êtres humains, quand il n'y a plus de recherche de ce qu'il y a au-delà de ce que nous voyons et au-delà de cette vie, quand il n'y a plus que le manger et le boire, quand il n'y a plus que la table, c'est un signe que l'avènement du Seigneur est proche. Et c'est vrai que, il est vrai que dans l'histoire du monde, nous sommes dans une période bien particulière parce que les païens n'oubliaient pas leur Dieu. Ils festoyaient, certes, mais ils n'oubliaient pas leur divinité. Ils n'oubliaient pas les puissances qui, selon eux, présidaient à leur destinée. Et nous, nous sommes dans une génération qui ne croit ni en Dieu ni au diable. Une génération totalement athée en Occident. C'est ce qui se passa juste avant le déluge. Nous le découvrons dans les textes de l'évangile de Matthieu et des épîtres de Pierre. C'est un signe. Quand on ne pense plus qu'à manger, boire et s'amuser, c'est que l'avènement du Seigneur est proche, c'est que le jugement divin se rapproche et que la fin du monde approche. Quand nous sommes dans un monde athée, qui, à mon grand scandale, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout tournait autour de Noël, de la nativité. Jésus était complètement absent. C'est son anniversaire. C'est le 2025e anniversaire de la naissance du Christ, du Sauveur et de l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Il était, à part quelques endroits encore lumineux, ceux qui croient en la parole de Dieu, il était absent, tourné dans les magasins. Il n'y avait rien. Rien qui nous rappelle la naissance de celui que le monde entier vient de fêter. Il n'y avait que la fête du manger et du boire. Et avec le chocolat. Et même, j'ai eu une immense difficulté, j'ai cherché un calendrier de l'Avent chrétien. Je n'en ai pas trouvé. Et j'ai trouvé des calendriers de l'Avent avec pour thème Goldorak. J'ai trouvé Nespresso. J'ai même trouvé un calendrier de l'Avent de Dior. L'Avent quoi ? En plus, tous ceux qui connaissent le latin savent que le calendrier de l'Advent, de l'Avent, ne veut pas dire avant, auparavant, mais veut dire l'événement, ce qui advient en latin. C'est le calendrier de l'événement, c'est le calendrier de l'avènement. L'événement peut être fortuit, habituel. L'avènement, c'est un événement qui surpasse tous les autres. C'est l'avènement du Christ, c'est l'incarnation. Et je me suis rendu compte donc que on n'attendait plus Jésus. On n'attendait plus de célébrer sa première venue. Mais je me suis rendu compte que pour nous, les croyants, il y a un deuxième calendrier de l'Avent. Un calendrier qui dure depuis qu'il est remonté aux cieux. Et tous les jours de notre vie, nous ouvrons une petite case pour lire une promesse du Seigneur jusqu'à ce qu'il paraisse. Alors, ce n'est pas du chocolat. Risquerait de faire une indigestion. Mais je crois que pour cette nouvelle année, chers frères et sœurs, je vous laisse le calendrier de l'Avent de Noël avec l'incarnation du Seigneur et des chocolats. Vous les trouverez au mois de novembre prochain si le Seigneur n'est pas revenu. Mais il nous faudrait, je crois, selon les avertissements de la parole de Dieu, avoir ce calendrier de l'avènement du Seigneur présent tous les jours, en nous levant le matin, afin que cette pensée puisse nous fortifier et nous animer. Je me suis rendu compte que nous, les chrétiens qui fondons notre foi sur la parole de Dieu, nous ne l'attendons plus assez. Nous ne l'attendons plus. Pour dire la vérité, nous ne l'attendons pas. Nous célébrons le passé. Nous avons besoin de nous rapprocher, surtout dans l'année qui vient, où d'énormes nuages noirs s'accumulent à l'horizon. Alors, je ne veux pas être totalement négatif, mais guerre, bruit de guerre. Je travaille dans les hôpitaux, vous savez, et on nous a demandé de nous préparer dans les agendas pour les médecins et tout ça pour une guerre au printemps. Donc, nous nous préparons à accueillir de nombreux blessés pour le printemps. Donc, voilà. Bon, je ne dirai rien d'autre. Nous espérons dans le Seigneur qu'il n'y aura ni guerre ni révolution. Mais nous attendons le Seigneur qui nous fera échapper à toutes ces choses. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Alors, d'après la parole du Seigneur, il y a plusieurs façons d'attendre. Et il y en a une qui est citée dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 8. La deuxième épître à Timothée, au chapitre 4. Et au verset 8, nous lisons « Désormais, disait l'apôtre Paul, la couronne de justice m'est réservée. Pureté, innocence, dans ce mot « justice ». La couronne de justice m'est réservée, il les tenait beaucoup, car vous le lisez dans ses épîtres, il avait une très mauvaise conscience de son passé. Il avait été persécuteur de l'Église, meurtrier, blasphémateur contre le Christ, et ça lui restait toute la vie. Il savait que le Seigneur l'avait pardonné. Mais il attendait cette justice, cet innocentement total de son passé. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ah ! Nous pouvons aimer son avènement. Mais vous savez que l'amour, ce ne sont pas que des paroles. Pour ceux qui sont mariés parmi nous, quand il n'y a que des paroles, il y a des reproches. Tu le dis, mais tu ne le fais pas. Hein ? L'amour est pratique. L'amour agit. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, plein de bonté. Hein ? Il ne se réjouit pas du mal. Il ne se réjouit que du bien, etc., etc. L'amour, disait l'apôtre Paul, demeure toujours l'amour de Dieu. Il faut aimer son avènement, chers frères et sœurs. Et ce sera pour nous un bienfait énorme que de se rappeler tous les matins, Jésus revient. Dans les circonstances où nous serons, la pensée qui nous animera ne sera pas chocolat. Jésus revient des cieux pour prendre son Église à lui, la mettre à l'abri, la protéger et la garder. À tous ceux qui auront aimé son avènement, commençons à aimer son avènement. Et puis, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 11, nous lisons aussi une autre manière d'attendre. Alors, aimer son avènement. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 11, nous lisons, la deuxième, c'est vrai, je suis dans la première, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre et disparaître, toutes ces choses auxquelles nous risquons de trop nous attacher. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. On peut faire venir plus tôt le Seigneur, d'après ce que je lis dans ce texte. C'est une hâte qui nous sera personnelle, parce que Dieu, lui, a déjà fixé le jour de l'avènement de son Fils, certes. Mais quant à nous, nous pouvons faire advenir, plutôt que nous le pensons, l'avènement du Seigneur. Mais comment ? Eh bien, d'après l'apôtre Pierre, par la sainteté de votre conduite, pas de votre vêtement, pas de votre statut religieux. Je suis chrétien, je suis saint, mis à part, certes, mais par la sainteté de votre conduite, c'est-à-dire la vie pratique de tous les jours, séparée du mal et du péché. Tous les jours. Seigneur, comment hâter ton avènement ? Seigneur, donne-moi la force tous les jours dans ma vie, dans mon comportement journalier, dans mes paroles, dans mes regards, être loin du mal. Que je ne sois pas quelqu'un de malfaisant, mais de bienfaisant, et dont la présence apporte paix, vérité et lumière tout autour de moi dans mon cercle de fréquentation professionnel, estudiantin et autres cercles, voisinage, amitié, collègues, camarades. La sainteté de votre conduite. Comment hâter l'avènement du Seigneur ? Par un comportement qui le glorifie. Mais aussi par votre piété. La piété, c'est le culte que chacun d'entre nous rend à Dieu dans son privé. Nous faisons exercice de piété le dimanche, certes, mais pour les apôtres, il nous faut être pieux, c'est-à-dire servir le Seigneur en esprit et en vérité dans le quotidien et dans le privé. Donc, l'éloignement du mal et le service du Seigneur, dans la prière, dans la méditation, dans l'enseignement, dans la communication de ces vérités tout autour de nous, voilà comment nous pourrons hâter et faire avancer les cases de notre calendrier de l'avènement du Seigneur. Alors, si ce n'était pas assez pratique, au chapitre 1er de la même épître, Pierre était un homme qui pratiquait la pêche de poisson. C'est un homme pratique. Les artisans sont toujours pratiques, parce qu'ils sont confrontés aux lois physiques toute la journée, que ce soit sur le bois, le fer, la laine, toutes sortes d'artisanat. Ils sont confrontés aux lois que Dieu a établi, ils sont donc très pratiques. Ils fabriquent même des outils pour la chose qu'ils vont fabriquer. C'est comme ça qu'on retrouve en brocante, j'aime beaucoup la brocante, voyez, des outils indéfinissables. Personne ne sait me dire ce que c'est ce machin biscornu il a été construit pour une tâche particulière par le ferronnier, le forgeron, vous voyez, pour un travail tout à fait spécial. Et dans ce travail de nos âmes et de préparation à l'avènement du Seigneur, l'apôtre Pierre nous dit, au chapitre 1, à partir du verset 3, il commence par un constat. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et au culte personnel et à la piété, au moyen de la communion ou connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa force, sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses et l'accomplissement de ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Ah, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, nous en avons parlé, par la sainteté. Soyez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. C'est écrit. Soyez séparés du mal. Eh bien, ces promesses qui nous acquièrent le pain et le vin, ou la boisson, et qui nous sont promis, nous sont donnés par sa divine puissance tous les jours. Quelqu'un d'entre vous peut-il dire « j'ai eu faim cette année » ? C'est possible. Mais ce sera une personne unique parmi nous. Certainement venant d'un pays éloigné, pris par la guerre et la famine. Aucun d'entre nous ne pourrait dire « j'ai souffert de la faim cette année ». À part de la soif et de la faim de justice. Mais ça, c'est naturel, puisque nous sommes dans un monde injuste. Hein ? Eh bien, puisque tout nous est donné pour le quotidien, et même la piété, pour vivre en chrétien et chrétienne, il nous faut travailler. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, le courage. Notre tradition nous dira le courage. Est-ce qu'il faut du courage pour être chrétien actuellement ? Ben, si vous voyez nos jeunes frères dans les universités, par exemple, dans les écoles, dans les lycées, il faut un drôle de courage. Parce que vous avez tous vos compagnons qui se moque de vous si jamais vous affirmez que vous croyez en Jésus-Christ comme l'unique chemin qui mène à Dieu, à la justice et à la vérité. Mais j'en parlerai aussi dans le sein du travail. Quand vous êtes réunis, que tout le monde se plaint un peu des conditions de travail et des difficultés qui se passent dans le monde, et que vous oseriez en élevant la voix en disant « moi je crois que Jésus-Christ est la réponse ». Ça demande un immense courage, parce que combien de colibés, de visages fermés, de moqueries à demi-mot dès que vous auriez tourné le dos pour rentrer dans votre bureau et vous entendrez des réflexions fort désagréables. Il faut ajouter à la foi le courage. Pas le courage pour faire le fou dans les rues, le courage d'affirmer Jésus-Christ est l'unique solution. À ce courage, chers frères et sœurs, Pierre qui a dû l'apprendre, il était très courageux pour faire des bêtises, mais un peu moins courageux pour servir le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur opère en lui une transformation par l'action de son esprit au travers de difficultés dont son reniement, dont sa querelle avec l'apôtre Paul et d'autres événements, il a acquis beaucoup de courage. À la vertu, la science, la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu qui nous décrit tous les signes de l'avènement du Seigneur, qui nous décrit aussi toutes les difficultés que nous allons nous rencontrer plus nous nous approcherons du jour du Seigneur. Les difficultés deviendront de plus en plus grandes, de plus en plus difficiles. Il continue. À cette science, cette connaissance, la tempérance, la maîtrise de soi. Parce que des fois, quand on a une grosse tête bien remplie, on fait des bêtises. On commence à mépriser ceux qui n'ont pas autant de connaissances. Hein, et on croit qu'on sait tout. Donc l'apôtre précise, oui, acquiert de la connaissance spirituelle, mais calmos. Ne crois pas que tu sais tout. Tu sais un peu. Et fais-en profiter les autres. À cette tempérance, à cette maîtrise de soi, la patience. Et on voit qu'on a besoin de patience. Les psychologues disent de résilience. C'est la vertu du métal. Un métal ductile. C'est un métal qui ne casse pas. Si on met trop de carbone, il est très tranchant, mais il casse. Mais il y a une manière de faire les couteaux qui font qu'ils restent dans une certaine souplesse qui permet de ne pas les briser. Et ils coupent toujours autant. La patience. Jacques disait dans son chapitre premier de son épître, « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous ne faillissiez en rien. » Vous avez vu comment le travail de l'adversaire est concentré sur votre faculté d'aimer et de patienter. Je crois que nous sommes toujours atteints en premier sur ces deux choses. La faculté d'aimer, on vous met un infernal devant vous, mais il vous le met pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que vous perdiez patience. Donc à tout cela, chers frères et sœurs, on nous demande de rajouter la patience. C'est du travail. À la patience, la piété, le culte rendu à Dieu, bien entendu. À cette piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'agapé, l'amour divin. Sinon, on ne tient pas. Il faut de l'amour fraternel et de l'amour divin. Sinon, on ne tient pas. C'est impossible devant les agressions de l'adversaire. Alors voilà, je vais terminer mon propos. C'était un peu long, mais combien la parole du Seigneur veut nous donner un avenir et de l'espérance. Pour cette nouvelle année, frères et sœurs, construisez votre calendrier de l'Avent spirituel. Oui, on prendra des mesures pratiques, sans faire du sport, regardez moins les écrans, les moyens, les petits et les grands. Hein, oui, on fera des efforts. On fera des efforts sur la nourriture, sur la boisson. Hein, on fera des efforts. Mais surtout, nous voudrions travailler pratiquement à l'avènement du Seigneur. Demandez comment vous pouvez travailler. D'abord, il faut l'aimer. Si vous n'aimez pas le retour du Seigneur, vous ne pourrez pas y travailler. Quel gain, quel bénéfice pour chacun d'entre nous dans l'avènement du Seigneur. J'avais un frère qui taquinait les jeunes mariés. Chaque fois qu'il prêchait le jour du mariage, on n'avait pas encore échangé les anneaux, il leur disait, et si le Seigneur revenait maintenant, que choisissez-vous ? De finir le mariage ou de partir avec lui. C'est un peu dur. Il mettait les jeunes mariés devant une situation dramatique. On n'aimait pas quand il faisait cette plaisanterie. On n'aimait pas du tout. Hein? Parce que c'est un choix cornélien. Je laisse ma fiancée ou je laisse mon fiancé à 5 minutes du mariage pour partir avec le Seigneur. Bibliquement, c'est juste. Je préfère le Seigneur. Je l'aime au-dessus de tout. C'est mon Dieu. mais on reste des êtres humains. Et Dieu ne renie pas notre humanité. Hein ? Alors, aimons l'avènement du Seigneur. Certes, c'est un fait. Mais attends, accélérons, pour ce qui nous concerne, le moment de notre rencontre avec le Seigneur. Et accélérons-le d'une manière qui ne soit pas destructrice. On nous a parlé de culte personnel et de pureté, d'éloignement du mal, de sainteté. C'est pas bien difficile. Oui, c'est très difficile. Surtout que Pierre rajoute au moins 9 éléments ou 10 éléments à acquérir. Et c'est pas du gâteau. Avoir la foi, c'est un don de Dieu. Ça va. La piété, le culte personnel, c'est un peu plus difficile. Se mettre à genoux au pied de son lit. Pour moi, ça avait été très difficile de prier le soir avant de me coucher. Je priais allongé, mais je m'endormais. Alors le Seigneur m'a dit, lève-toi. Seigneur, je suis fatigué, lève-toi. Mets-toi à genoux, mets-toi debout, mais lève-toi. C'est mieux que de s'endormir. C'était très difficile. Alors j'ai dû apprendre, c'est vrai, à lire tous les jours la Bible, à la méditer. Il ne s'agit pas simplement de la lire, hein. Il faut l'étudier. Il faut rechercher la volonté du Seigneur pour soi-même tous les matins et rechercher qui est le Seigneur tous les soirs. Et bien d'autres choses encore. Pour moi, le plus dur, ça a été l'amour. Mais pas l'amour fraternel. Ça, c'était facile. Il y avait très peu de casse-pieds dans notre assemblée. Donc c'était facile. C'était l'amour envers les gens de l'extérieur. J'habite Marseille. Vous savez que c'est une ville où règne l'amour et la justice et la vérité. Je vous ai entendu rire. Vous ne me croyez pas. Vous avez raison. Ce n'est pas un endroit où règne l'amour, la justice et la vérité. C'est un endroit où règnent les idoles, dont le football par exemple, l'argent, par tous les moyens, hein, le plaisir, la table. La façon de vivre du temps de Noé. On est au bord de la mer en plus. Hein. Donc, les habitudes noéliennes ou noachiques, on les a beaucoup à Marseille. Et on a beaucoup de gens qui sont vraiment peu aimables, discourtois, inciviques, méchants, agressifs. Là, ça a été dur. Ça a été dur. Surtout au volant. Où le moindre des insectes à deux pattes devient... je veux dire, un guerrier viking au volant. Voilà. Où l'objectif, c'est de vous détruire pour passer devant vous. Alors, donc là, c'est insupportable, insupportable. Et puis, il y a ceux qui marchent aussi et qui sont férocement méchants parce que vous les avez regardés, parce que vous êtes passé devant eux en marchant sur le trottoir. Vous avez marché plus vite qu'eux. Ils se sont agressés. Donc ça a été très dur d'aimer mon prochain, comme moi-même. C'est très dur. Le Seigneur continue de me l'apprendre. Hein. Il m'a mis dans la ville la plus dure, la plus difficile, pour l'apprendre. Hein. Bon, il y a quand même des joies. Hein. Je ne veux pas vous repousser, venez me voir hein, avec Françoise. Passez à Marseille. Hein. Voilà, c'est quand même pas l'enfer. C'est le purgatoire. Même s'il n'existe pas, mais je veux dire, c'est pas l'enfer. Hein? Alors je veux conclure, chers frères et sœurs, je veux conclure avec la première épître de Jean, au chapitre 2, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, disait Jean, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez dans son exemple. Nous l'avons lu tout à l'heure. La sainteté de votre comportement, c'est copier Jésus. Faire comme il a fait. Pour ça, il faut lire les évangiles, s'imprégner de la vie du Christ, faire la même chose. Dans les circonstances où il est. Là où on veut le lapider, là où on blasphème contre Dieu, là où on le traite de Belzébuth, parce qu'il chasse les démons. Vous regardez les réactions du Seigneur. Il y a une chose qui ne sera pas accordée. Ne prenez pas un fouet, ne rentrez pas dans le temple et ne fouettez pas les marchands. Hein ? Pour le reste, faites comme lui. Verset 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Faites comme lui. Afin que lorsqu'il paraîtra à son avènement, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et trouvés éloignés de lui. Parce que, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Si quand il revient, je suis vraiment dans des circonstances épouvantables, si je suis dans le péché, on n'a pas la suite, hein, mais on la suppose. Entrerai-je dans sa gloire ? Si je suis surpris en n'attendant pas du tout son avènement. Alors, je ne veux pas mettre en doute l'assurance du salut. C'est pourquoi on parle d'assurance. Hein. L'assurance du salut. Afin qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurez en lui. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour les encouragements de ta parole. C'est difficile, mais tu es avec nous. Tu places devant nous cette divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie pratique, à la vie morale, à la vie spirituelle, à la vie et à la piété, les moyens de servir le Seigneur. Tout nous est accordé. Il nous faut simplement les qualités intérieures et morales que nous devons développer après avoir reçu la grâce de la foi. Seigneur, nous te prions de nous accorder de bien travailler en cette année qui vient à toutes ces choses, l'amour, la tempérance, la vérité, l'amour fraternel, la science de ta parole. Seigneur, aide-nous, le courage du témoignage, à acquérir toutes ces vertus pour te glorifier, pour être prêt et sûr de nous lorsque tu apparaîtras. En nous confiant certes pas dans notre propre obéissance, mais dans la tienne qui s'est manifestée dans notre vie tous les jours. Accorde-nous la sainteté du comportement. Accorde-nous-le, nous t'en prions, Seigneur. Et que nous puissions vraiment nous réjouir d'être en communion avec toi. Sois béni, Seigneur, nous te confions toute l'assemblée, les grands et les petits. Si quelqu'un était dans des liens de péché ce matin, que tu puisses ouvrir son cœur à la réception, non pas de réprimande ni de reproche, à la réception de la grâce de Dieu qui efface tout par le sang de Jésus. Et qui renouvelle, régénère par l'Esprit Saint. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Console-nous, fortifie-nous et donne-nous de travailler notre calendrier de l'avènement. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Protège-nous dans ces jours sombres qui semblent arriver sur l'humanité, mais c'était la preuve, le signe que tu reviendrais bientôt. Et que nous puissions fixer nos regards sur cet avènement et ne pas perdre courage. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.